Rebonjour à tous. Je me reconnecte. Il semble qu'il y ait eu une panne avec la première diffusion. Donc, il est maintenant 4h59. J'avais fait déjà un premier vidéo qui semble avoir avorté et on s'en excuse. Dans ce vidéo, je faisais en fait le retour sur l'enseignement d'hier. On va tout simplement poursuivre avec celui d'aujourd'hui qui sera un peu plus court étant donné qu'on est un peu pressé dans le temps. Alors prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Fortifie-nous aujourd'hui, fortifie-nous dans l'étude de cette parole, que ta grâce nous soit accordée afin qu'on puisse entendre, recevoir, mettre en application l'enseignement du jour. Qu'en toute chose, Seigneur, ta grâce nous soit donnée, que ta présence soit manifeste dans notre vie. Et que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Alors encore une fois, désolé pour ceux qui étaient connectés. Je sais qu'il y en avait quelques-uns qui ont même partagé la première vidéo, mais je crois que celle-ci s'est perdue dans les limbes de l'Internet. Alors ce matin, on va relire le passage d'hier et puis on va y aller directement avec l'enseignement du jour. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, ce qui par ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Premier constat qu'on peut faire ici, la Bible nous dit dans le verset 11, « C'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts, sans avoir obtenu les choses pour lesquelles, ou les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » On parle donc de gens. En l'occurrence, ici, on nous donne aussi l'exemple de Sarah et donc d'Abraham, qui pendant longtemps vont être en quête de cette promesse qui leur a été faite ou en quête de sa réalisation à travers la naissance tardive d'Isaac. Et on a vu hier donc les ennemis de la foi. Je vous les cite rapidement, tout simplement, pour vous remettre dans le bain. On a vu que, premièrement, il ne fallait pas céder à la peur de l'ennemi, ne pas céder à la pression humaine, ne pas céder à l'appât d'une gratification terrestre, ne pas céder sous l'épreuve du temps, ne pas céder à des moyens palliatifs et ne pas céder face au contexte environnant. Alors pour ceux qui voudraient avoir plus d'explications, simplement regardez la vidéo qu'on a présentée hier à ce sujet. Aujourd'hui, on voit trois outils qui vont aider Sarah d'une part, mais aussi chacun d'entre nous dans notre foyer suite à l'enseignement. Je recevais plusieurs courriels ou textos ou messages qui me disaient « Pasteur, merci pour l'enseignement. Ma foi est effectivement en danger actuellement. Ma foi n'est pas aussi forte et optimale qu'elle devrait être. Alors, quels sont les outils que vous me suggérez pour m'aider à maintenir ma foi en bon état ?» Et c'est ces outils-là que nous voyons aujourd'hui, ces outils qu'on va voir en trois sections ou en trois domaines particuliers. Premièrement, Hébreux 11, 11 nous dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Cette dernière phrase est importante. « Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Alors le premier outil ou le premier fondement sur lequel on peut camper notre foi, c'est garder en pensée celui qui qui a fait la promesse. Gardez en pensée celui qui a fait la promesse. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors quand cette promesse vient directement de la bouche de Dieu, directement du cœur de Dieu, on doit ramener en nos pensées, même si la réalisation de cette bénédiction tarde, on doit ramener à notre pensée qui a fait la promesse, ou celui qui a fait la promesse, notre Dieu. En fait, si on prenait le temps, lorsque le découragement arrive, de relativiser les choses, si on en est capable, bien entendu, de relativiser les choses, on reviendrait à l'origine même de cette promesse. On reviendrait effectivement à cette première journée où on a eu la certitude d'entendre la voix de Dieu, la certitude de connaître la pensée de Dieu. Et on reviendrait au fait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage dans ce premier point ce matin à te rappeler de qui tu tiens cette promesse. Que ce soit parce que tu es entré dans un service, que ce soit parce que tu t'es avancé dans un certain domaine, dans une certaine sphère de ta vie, avec l'approbation de Dieu. Parfois c'est une question de mariage, parfois c'est une question d'emploi, parfois c'est une question de secteur d'études, un secteur académique, parfois c'est le déménagement dans un quartier, dans un autre pays, et on le fait suite à une conviction qui vient dans notre cœur, que c'est la volonté de Dieu. Alors effectivement, si Dieu nous a parlé, lorsque les moments difficiles arrivent, nous devons revenir à qui nous a appelés. Je vous dirais qu'en tant que pasteur, ça nous arrive très régulièrement de nous dire, mais qu'est-ce que, en tout cas moi, de me dire, mais un peu comme Molière disait dans Les Fourberies du Scapin, mais qu'allait-il faire dans cette barque, ou qu'allait-il faire dans ce bateau? Et on se demande parfois, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce domaine? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce secteur ou dans ce territoire? Et le questionnement s'arrête rapidement lorsqu'on revient au fait que notre appel, notre service, notre positionnement géographique ou autre dans le service de Dieu vient d'un appel qui n'émane pas de la bouche d'un homme, qui n'émane pas de la conviction humaine, mais qui émane d'une directive reçue de la part de Dieu. On nous dit ici que Sarah va croire parce qu'elle se rappelle la fidélité de celui qui a fait la promesse. Dieu n'est pas un homme, et je le répète, et je n'ai cesse de le répéter, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors s'il t'a fait la promesse, assurément tu vas y arriver. C'est un peu comme cette histoire bien plus tard, lorsque Jésus va se retrouver au bord de la mer de Galilée, qui est un lac en fait, mais qui est très vaste en Israël. Alors c'est pour ça qu'on lui a titré le sobriquet de mer, mais ce n'est pas la mer en tant que telle, c'est un lac, mais assez grand pour avoir des tempêtes furieuses. Et Jésus va dire à ses disciples, le soir venu, « Passons de l'autre bord. » La journée a été longue, on a prêché, et lorsqu'on se met à traverser en plein milieu de la nuit, ben là, le vent se met à se lever, la tempête fond sur les disciples, et les barques viennent à se remplir d'eau. Et on va réveiller Jésus qui dort à la poupe du bateau en lui disant, « Mais est-ce que tu ne crains pas que nous mourions ?» Jésus ne craignait pas, un, parce qu'il savait la destinée, et deux, parce qu'il leur avait dit, « Passons de l'autre bord. » Si les disciples étaient revenus à cette phrase reçue de la part de Jésus qui disait « Passons de l'autre bord », ils auraient été obligés de se tranquilliser en disant « Ce n'est pas un homme pour mentir, il nous a dit qu'on arriverait de l'autre côté, donc nous allons effectivement arriver de l'autre côté. » Donc, soutien à notre foi, garder en pensée qui a fait la promesse, celui qui a fait la promesse. Deuxième pensée, on la voit dans Hébreux 11, toujours du verset 13 au verset 16, et je relis pour vous. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient morts, où ils étaient sortis plutôt, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et ici, la pensée qui revient, c'est le fait d'avoir en tête, d'avoir en esprit, la récompense céleste dans l'éternité. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on veut, comme on le disait plus tôt ce matin, on le disait aussi hier dans l'enseignement, on veut une gratification terrestre, on veut une gratification instantanée. On n'aime pas l'attente et plus encore, on n'aime pas tout simplement se dire que la bénédiction pourrait ne pas arriver ici, mais n'arriver que dans l'éternité. Il nous faut comprendre une chose, les bénédictions dans l'éternité sont de loin beaucoup plus importantes, beaucoup plus glorieuses que celles qu'on pourrait avoir ici-bas. Pourquoi? Parce que les bénédictions d'ici-bas ont une fin logique qui va survenir. Lorsqu'on regarde même Lazare, vous allez me dire, mais Lazare a reçu sa vie. Il était mort et Jésus l'a ressuscité. Mais comprenons une chose, la résurrection de Lazare a eu une fin aussi. La résurrection de Lazare a terminé par sa seconde mort. La Bible ne nous dit pas que Lazare a été enlevé, qu'il est vivant ou qu'il est resté vivant pour toujours. Non, Lazare a eu une première mort. Il a été enfoui dans un tombeau. Jésus l'a ressuscité au quatrième jour. Il est donc sorti vivant du tombeau. Mais quelques années plus tard, voire quelques décennies plus tard, comme chacun d'entre nous, à moins que Jésus ne vienne nous chercher, viendra chercher son Église d'ici là, chacun d'entre nous connaîtra la mort. Et Lazare, donc, même avec cette glorieuse bénédiction qu'était la résurrection physique qu'il a subie ou qu'il a reçue, il est quand même arrivé à terme de cette bénédiction. Donc, les bénédictions dans l'éternité, elles ne prennent pas fin. Donc, celles qu'on pourrait recevoir, ou les récompenses, ou les bénédictions, où les promesses qui pourraient s'accomplir strictement dans l'éternité ont une portée beaucoup plus grande et beaucoup plus glorieuse. Alors gardez en pensée que la récompense ultime arrive dans l'éternité. Et lorsqu'on pense à une récompense ultime, on peut aussi parler de la vie éternelle. Je dis parfois que Jésus aurait pu s'arrêter, notre Dieu aurait pu s'arrêter à nous bénir strictement avec l'obtention du salut. Il aurait pu ne plus rien faire du tout à notre égard et ça aurait été déjà suffisant. Sachez que lorsqu'on regarde la destination vers laquelle nous marchons quotidiennement, celle-ci est de loin le rêve ultime pour chacun d'entre nous. C'est la destination ultime dans le sens dernière, mais dans le sens aussi glorieuse de son état. Alors, si vous voulez comparer l'éternité à quoi que ce soit de ce côté-ci de notre vie, vous ne trouverez aucun comparable. Il n'y a rien qui s'élève à la hauteur d'une vie passée éternellement, sans fin, sans interruption, sans diminution d'une présence majestueuse de Christ à nos côtés. Imaginez tous ces petits moments dans lesquels vous avez perçu d'une façon plus intense la présence de Dieu à vos côtés. Ces occasions où celle-ci vous a peut-être fait pleurer, où celle-ci vous a peut-être ému à un tel point que vous versez des larmes, que vous avez des frissons, des tremblements ou autres. Imaginez de vivre dans la présence ultime, complète, parfaitement perceptible, visible de Dieu à ses côtés. Cela va se passer dans l'éternité lorsque nous serons donc en présence de Jésus. Et cette récompense devrait pour nous nous permettre d'être fortifiés dans notre foi. Pierre, Paul vont l'expliquer en disant l'un et l'autre avec leurs mots que les difficultés présentes sont simplement passagères, que les tribulations présentes sont simplement passagères, que celles-ci vont s'arrêter et que celles-ci ne sont rien comparativement à la gloire à laquelle nous sommes destinés dans la présence éternelle de Jésus. Dernier point pour aujourd'hui, dernière pensée qui vient fortifier notre foi. Donc on a vu de premièrement garder en pensée celui qui a fait la promesse, puis garder en pensée la récompense ultime dans l'éternité. Mais troisième et dernière pensée, lorsque la foi est ébranlée, lorsque la foi est attaquée, garder en pensée que nous serons aussi mis en jugement ou examinés par Christ concernant nos vies ici-bas sur terre. Il y a un jugement qui va être porté sur nos vies. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4 du verset 1 à 5, je lis pour vous. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui leur sera due. Ici, Paul est en train de dire que il y a un jugement qui va venir sur lui. Il y a un constat que Dieu va établir sur le service de ses ouvriers ici-bas sur terre. Et ce constat va être obtenu dans l'éternité. Donc tout ce que je fais ici-bas est pris en note par Dieu. Tout ce que j'accomplis selon sa volonté est pris en note. Il y a un décompte qui en est fait, mais tout ce que je ne fais pas est aussi pris en note. Alors parfois, lorsque la foi vient à être ébranlée, je dois revenir à mon statut de serviteur, revenir à la compréhension que je suis un serviteur et que aussi comment je me comporte lorsque ma foi est attaquée, comment je me comporte lorsque je suis en tribulation, lorsque je passe par des moments difficiles, cela est aussi noté. Dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 6 à 7, c'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, Pierre est en train de dire oui, nous avons des tribulations. Et oui, nous passons par des moments où la foi est attaquée, mais nous devons considérer ce temps d'épreuve comme tout simplement un moyen d'affiner notre foi, un peu comme l'or qui est éprouvé par le feu. On met l'or, un orfèvre va mettre son or dans le feu afin d'en éliminer les scories, d'en éliminer les imperfections et d'avoir, après le processus de fonte et puis de refroidissement de l'or, un or purifié. Et Pierre est ici en train de dire, notre foi, lorsqu'elle passe par les épreuves, elle se purifie aussi, elle s'améliore, elle prend de la valeur aux yeux de qui ? Peut-être à nos propres yeux, mais assurément aux yeux de celui qui est le consommateur de la foi. Donc Jésus, notre Dieu lui-même, lorsque notre foi est en train de se bonifier, elle glorifie celui à qui elle appartient, donc Christ Jésus. Donc gardez en pensée que le jugement va être donné aussi concernant notre foi. 2 Timothée 2, versets 11 et 12 nous dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Même pensée, il y a un jugement qui va être fait sur notre foi. Si nous persévérons avec foi, si nous persévérons malgré l'adversité, il y a des bénédictions céleste qui vient avec ça, si nous renions Jésus de ce côté-ci de l'éternité, la Bible nous dit qu'il nous reniera aussi. Et enfin, Apocalypse 22, le verset 12 nous dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Court verset, très explicite par lui-même. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc Jésus est en train d'annoncer je reviens bientôt. C'est le passage qui suit les textes respectifs aux sept églises de l'Apocalypse. Et à la fin, Dieu va dire je reviens bientôt, ma rétribution est avec moi. La rétribution, c'est le salaire. La rétribution est la rémunération qui est accordée à un ouvrier pour rendre donc à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si nous focussions sur le fait que nous sommes serviteurs et que nous sommes en train de travailler pour un royaume céleste, pour un positionnement dans l'éternité, assurément, notre foi en serait fortifiée. Alors, trois points ce matin que je résume pour vous. Gardez en pensée celui qui a fait la promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous disait dans l'Ancien Testament déjà, si la promesse tarde, attends-la parce qu'elle est en chemin. Gardez deuxièmement en pensée la récompense ultime qui nous est destinée dans l'éternité. On ne court pas nécessairement pour la récompense. On devrait travailler parce qu'on aime Jésus et non pas parce qu'on aime sa bénédiction. Par contre, on sait que notre Seigneur est un Seigneur qui est un bon patron, un bon rémunérateur de ceux qui travaillent pour lui. Donc assurément, il y aura bénédiction pour le travail que nous faisons, que nous accomplissons ici-bas sur terre. Et enfin, gardez en pensée que ce travail que nous faisons pour lui ici-bas sur terre et qui nous permettra d'accéder à une rémunération, à des couronnes dans l'éternité, ce travail sera assurément jugé, sous-pesé, sera assurément mis dans la balance pour voir son poids, pour voir sa qualité. Un peu comme le roi qui va s'approcher de Daniel avec une vision. Il a vu sur un mur un doigt qui écrivait un texte et il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et Daniel va l'interpréter en disant, c'est Dieu qui te dit, j'ai pesé de nouveau et tu ne pesais pas lourd. Et c'est un constat triste de savoir que nous pourrions, nous aussi, ne pas peser lourd dans la balance céleste au regard de Dieu. Par contre, si nous travaillons avec dévouement, si nous travaillons malgré les circonstances qui parfois sont difficiles, assurément, nous honorons Dieu et nous prenons du poids sur la balance céleste. Alors je prie mon ami, je prie mon frère, ma sœur, que lorsque Dieu regarde ta vie, qu'il ne dit pas, qu'il ne fait pas le même constat qu'il a fait concernant ce roi en disant « Je pèse, je sous-pèse encore et tu ne pèses pas lourd. » Mais que Dieu puisse dire « Je pèse, je repèse encore et tu pèses de plus en plus lourd. » Alors travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous pesons effectivement de plus en plus lourd. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Trois outils pour fortifier notre foi. Garder en pensée celui qui a fait la promesse, garder en pensée la récompense ultime que nous obtiendrons dans l'éternité, et garder en pensée que notre travail sera examiné par Dieu, et de cet examen, de ce constat, viendront aussi de riches, merveilleuses et glorieuses bénédictions. Dans les derniers versets du chapitre 11 d'Hébreux, on nous dit que certaines personnes ont refusé la délivrance par rapport aux tribulations et aux épreuves, sachant la bénédiction qui les attendait dans l'éternité. Alors permettez-moi de prier avec vous tous ce matin. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce rappel, merci pour ces trois pensées qu'on a développées ce matin et qui viennent fortifier notre foi. nous rappelant que tu n'es pas un homme pour mentir, que si tu as promis qu'on passe de l'autre bord, on va effectivement passer de l'autre bord, que si tu as promis que tu nous délivrais de l'Égypte, effectivement, tu nous délivres de l'Égypte. Que si tu as promis que le géant qui se tient devant nous viendrait à tomber, effectivement, le géant va tomber. On prie, Seigneur, de nous rappeler qui fait ces promesses dans nos vies. Que ce ne sont pas des promesses qui émanent de cette terre, mais qui émanent du trône direct de Dieu, du trône de grâce de Dieu. Alors nous pouvons avoir foi que celles-ci vont s'accomplir. Un deuxième outil, Seigneur, de garder en pensée la récompense ultime que tu es parti nous préparer. Tu nous as dit, voici, je retourne vers mon Père pour vous préparer une maison. Et si ce n'avait pas été le cas, je vous aurais fait savoir. Alors, Seigneur, merci parce que tu nous prépares à chacun d'entre nous une maison dans le royaume de Dieu, une promesse qui nous a été faite et tu n'es pas un homme pour mentir. Alors Seigneur, je me réjouis de marcher éventuellement dans ces rues pavées d'or, d'avoir, Seigneur, cette demeure que tu as préparée pour nous. Et je prie, Seigneur, aussi de me rappeler que mes œuvres ici-bas sur terre vont être amenées en examen, vont être amenées en jugement. Paul disait à la fin de sa vie qu'il avait combattu le bon combat, qu'il avait couru la course, qu'il avait achevé la course. Et que maintenant la couronne de justice lui était réservée. Il avait cette assurance, il n'avait aucun doute que la promesse allait s'accomplir et que la couronne lui était due. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli adéquatement son travail. Alors Seigneur, je prie de me concentrer à ma tâche. Je prie Seigneur d'être attaché au travail auquel tu m'as convié, tu m'as appelé, afin Seigneur d'être trouvé juste et agréable par toi. Merci Seigneur de bénir ma sœur. Merci de bénir mon frère et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voici ce que nous avions pour ce matin. Comme j'ai dit, je ne serai pas en onde à 8h30 aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis, par deux occasions, parce que ça c'est le deuxième enregistrement, par deux occasions risqué à faire cet enregistrement pour vous aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve à notre heure régulière demain matin, 8h30, pour une prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde, soyez bénis.